On est dans une petite série de trois dimanches, et c'est le dernier dimanche, dans Romains chapitre 1. On ne fait pas le livre au complet. J'espère vous donner goût d'aller dans le livre de Romains et de l'explorer, mais on jette les bases du livre de Romains dans le chapitre 1, qui établit les grandes lignes de la vision de Paul et de ce qu'il veut nous communiquer. Dieu s'est révélé à nous tous et chacun, et personne n'a une excuse. Mais il nous explique dans le chapitre 1 le mécanisme de comment Dieu s'est révélé, le moyen de l'Évangile pour nous faire connaître aussi la bonne nouvelle, et aussi comment on a répondu à Dieu créateur. Et qu'est-ce qui arrive finalement lorsqu'on rejette le Dieu créateur et qu'est-ce que ça se manifeste dans notre vie par la suite? Et c'est ce qu'on est rendu dans notre message. On est rendu à ce troisième message qui touche justement les conséquences de l'Évangile. Et en guise d'introduction, je vous partage une petite histoire. On aime les histoires et j'ai tombé sur cette histoire du troisième vice-président des États-Unis. Un homme peut-être que vous ne connaissez pas, c'est plutôt la coutume américaine de connaître tous leurs présidents, mais le troisième vice-président des États-Unis était le petit-fils d'un grand évangéliste, Jonathan Edwards. Il s'appelle Aaron Burr. Et cet homme-là a vécu jusqu'à 80 ans et a eu ce rôle historique d'être le troisième vice-président dans l'histoire des États-Unis. Et il a grandi dans un foyer chrétien qui aimait le Seigneur, où ce que l'Évangile a été présenté à l'Église. Et à 20 ans, il a pris une décision qu'il ne voulait rien savoir de Dieu. Et il a fait la demande au Seigneur de le laisser tranquille. « Seigneur, je te demande officiellement, je veux que tu me laisses tranquille pour le reste de ma vie. » C'était sa prière à lui. Imaginez. Il s'est taillé une place sur la scène politique, mais il a été aussi impliqué dans des conflits incessants pendant sa vie. À 48 ans, il a même tué Alexander Hamilton dans un duel. Et il a vécu un autre 32 ans après, dans beaucoup de malheurs, malheureux et improductifs. Et un jour, il a fait la triste déclaration suivante, rendue à l'âge de 80 ans, au seuil de sa mort. Il dit, « Il y a 60 ans, j'ai dit à Dieu que s'il me laissait seul, je le laisserais lui aussi tranquille. » Et Dieu ne m'a jamais dérangé depuis. » Il témoigne de sa demande à Dieu de le laisser tranquille et que s'il laissait tranquille, que lui allait le laisser tranquille. Et Dieu y a répondu et il confirme ça 60 ans plus tard. C'est particulier, hein? Et il a eu ce qu'il voulait. Vous savez, les gens, parfois, ne veulent rien savoir de Dieu. Et Dieu respecte ça. Et le pire, c'est que si vous faites une telle demande, Dieu peut respecter votre demande et vous laisser livrer à vous-même dans ce désir de vivre une vie sans Dieu et que Dieu vous laisse tranquille. Chers amis, le sentiment de culpabilité, de peur, de mort indique que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans l'être humain et que malgré qu'on puisse être éloigné de Dieu, quand ça travaille à l'intérieur, c'est un témoignage que Dieu appelle. J'oublie à qui. C'est un ami athée à qui je parlais dernièrement. Puis, j'oublie ce qu'on jasait. Puis, j'ai dit, c'est drôle comment les athées, même le pire des athées, quand tu lui dis, je vais prier pour toi, quand il passe un malheur, n'est pas indifférent de cette ligne. Il dit, c'est vrai. Il dit, c'est vrai, il dit, à quelque part, tu es en train de dire que tu veux mon bien-être puis que tu as une bonne intention à mon égard. Fait que c'est sûr que même un athée ne résistera pas et ne dira pas, je veux rien savoir de ta gentillesse, de tes prières. Généralement, il y a l'exception, évidemment. Vous savez, si vous demandez à Dieu de vous laisser tranquille, il peut vous respecter, mais c'est tout qu'un danger d'être livré toute sa vie. Et cet homme est mort sans le Seigneur. La pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'il exauce cette prière. Et parfois, Dieu exauce cette prière. Et c'est ce que le texte aujourd'hui nous dit. Être abandonné de Dieu, vous savez, c'est le jugement ultime, livré à nous-mêmes, à nos désirs. Il existe, tant qu'on est vivant, un moyen d'éviter, une route pour éviter de se ramasser éloigné de Dieu et en enfer. Mais une fois en enfer, il n'y a aucun retour. Aucun retour. Et le texte de ce matin nous avertit d'avance. Et juste pour vous remettre en perspective où ce qu'on est, on a regardé premièrement l'Évangile pour lequel Paul est fier. Il présente la base de son appel au début du chapitre, dans son prologue. Il aussi partage aussi sa préoccupation sincère pour l'Église, pour leur foi, pour leur progrès, surtout pour leur croissance. Et ils désirent leur venir les visiter pour leur apporter l'Évangile. Pourtant, ils connaissent l'Évangile, mais ils veulent leur apporter l'Évangile parce qu'ils n'ont pas seulement besoin d'entendre l'Évangile pour une première fois. Ils ont besoin de le réentendre pour grandir. Et ils partagent justement cette foi passionnée qu'il y a de l'Évangile, qui est le thème central de son épître. Par la suite, on a vu le rejet de la révélation divine cause la colère de Dieu. Et on a vu comment Dieu se révèle à tous et chacun de manière claire, par différents moyens. Mais ce qu'on voit autour de nous témoigne d'un Créateur aimant, attentionné, qui tend la main vers nous. Mais l'homme rejette la gloire de Dieu. Et lorsqu'il rejette la gloire de Dieu, le résultat, bien, dans sa vie, c'est les ténèbres, c'est la folie, c'est le comportement de folie, l'idolâtrie. Et là, maintenant, dans les prochains versets qu'on va lire, on va voir maintenant comment il s'enfonce de plus en plus une fois qu'il a pris cette route-là. Et peut-être pour certains, vous allez considérer que ce texte est très négatif ce matin, parce que Paul fait un point ici. Il fait une liste de différents péchés et il montre comment que quand on s'enlise dans un chemin, on s'enlise de plus en plus creux. Mais il est bon aussi de voir ce que Paul nous dit ici sur le péché pour nous montrer comment on y est si sensible, pour voir son mécanisme, son emprise facile sur nous et pour aussi voir comment on a besoin de Jésus pour être sauvé, mais aussi pour continuer à vivre chaque jour la liberté qu'il nous offre parce qu'on retourne si facilement à ses désirs naturels qui sont nôtres. Alors, on va lire à partir du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre, les 8 derniers versets de ce chapitre qui complètent la pensée de Paul ici. Verset 24. « C'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur. » Et j'aimerais que vous remarquiez ici le mot « cœur » qui revient quelques versets précédemment et au chapitre 2, verset 1. L'enjeu ici, c'est les désirs de notre cœur. Ça vient de l'intérieur. Oui, il y a de la pression extérieure parfois. Oui, l'ennemi peut nous attaquer. Mais des enjeux qui sont essentiels à la base, c'est les enjeux de nos désirs, de notre cœur. « À l'impureté et qu'ils avilent eux-mêmes leur propre corps. » Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Il y a eu ici une transaction. La vérité de Dieu, j'en veux pas, je la tasse, je prends en place le mensonge. Il y a un changement ici délibéré, une transaction qui a été faite rationnelle. Contre le mensonge, adorer et servir la créature au lieu du Créateur, parce qu'on a vu que le Créateur s'est manifesté, et c'est un choix maintenant que l'être humain fasse de l'adoration de choses créées plutôt que celui qui crée toutes choses. À qui est béni éternellement. Amen. C'est comme s'il arrive ici au creux de vague de cette déchéance-là, puis il dit, on rejette le Créateur pour prendre la créature, puis là, en nommant le Créateur, puis là, il dit, c'est même pas un nom propre, ici, c'est un verbe, le créant. Qu'il soit béni éternellement. C'est comme s'il fait une pause, puis ce Créateur-là, qu'il soit béni éternellement. Amen. Au creux de cette vague-là, il revient avec une adoration à Dieu. Assez spécial. Et il continue. C'est pourquoi, donc il y a un « c'est pourquoi » au verset 24, et au verset 26, et au verset 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilisantes. Leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Les hommes, de même, abandonnent les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, commettant infamie, homme à homme, et recevant en leur personne le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés, encore une fois, une troisième fois, à leur intelligence sans jugement. Ainsi font-ils ce qu'ils ne devraient pas. Et je vais répéter cette dernière phrase-là. Dieu les a livrés à leur intelligence sans jugement. C'est ainsi qu'ils font-ils ce qu'ils ne devraient pas, parce qu'ils ont été livrés. La cause est faite ici. Et je termine avec les derniers quatre versets. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de meurtre, de querelles. Alors, nous, on pourrait dire, ah, bien, le meurtre, hey, c'est terrible. Mais regardez les autres choses, c'est plein de choses qu'on peut vivre facilement, là. De querelles, de ruses, de dépravation, de diffamateurs, donc de parler dans le dos ou contre des gens. Médisance, là, ici, ennemis de Dieu, provocateurs, orgueilleux, fanfaron. En québécois, on dirait quelqu'un qui est fendant, qui est baveux. ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. On trouve ça dans notre société, ces choses-là ici, là. Sans intelligence, sans loyauté, sans cœur. Ici, c'est sans affection. On parle ici de problème d'attachement. C'est vraiment le mot du Nouveau Testament pour parler d'avoir un trouble d'attachement. Sans pitié ou sans miséricorde. Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarés dignes de mort, ceux qui commettent de telles actions, ils ne se bornent pas à les accomplir, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Donc, pas juste faire, mais donc ceux qui le font, il y a de l'approbation qu'il se fait. Et c'est ce que Paul ici condamne. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, accorde-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux me dire à moi personnellement ce matin. Accorde sagesse à ton serviteur, Seigneur, pour parler sagement de ta révélation. Bénis ta parole dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Les conséquences du refus de l'Évangile, livré à nous-mêmes. C'est ce que le texte nous dit ici, livré à nous-mêmes. Et ici, la clé, c'est qu'il y a une urgence, et il nous montre toutes les choses négatives pour créer l'urgence qui nous est développée dans les versets et chapitres suivants, l'urgence d'avoir besoin de la grâce de Dieu. Il faut voir l'ampleur du mal, il faut voir l'ampleur de comment on s'enlise facilement et comment on est cru pour voir la main tendue de Dieu et répondre à la grâce qu'il nous offre. De nous sortir de là. Tant qu'on ne voit pas comment cru on est, on s'arrange tout seul. Tant qu'il est capable de t'arranger tout seul, tu ne demandes pas de l'aide. Même si on t'offre de l'aide quand tu n'en as pas, tu le refuses. Non, je n'ai pas besoin d'aide, là. Paul veut nous montrer comment grave est l'état humain pour voir son besoin de la grâce de Dieu, du cadeau de Dieu et du besoin de se repentir devant la gravité de nos gestes. Sans Christ, l'humanité descend dans la corruption. Mais en lui, Dieu offre restauration. Quand Dieu se tait, c'est un jugement, mais aussi un appel à revenir à lui. Peut-être tel est le cas pour vous, le besoin d'un appel de revenir à lui. Un auteur que je lis de temps en temps donnait les étapes ici des versets 18 à 32. Il l'a mis de cette façon aussi, en quatre étapes. Il dit premièrement, il y a l'intelligence. Dieu nous a donné tous pour qu'on ait l'intelligence de connaître le Créateur, les versets 18 à 20. Tout est là pour qu'on ait l'intelligence de connaître le Créateur en nous et à l'extérieur. Pour nous parler, l'intelligence est là. Mais il y a un choix d'ignorance au verset 22 à 23. Ils ont décidé de ne pas vouloir connaître le Créateur. Et il y a un choix ici de rester ignorant. Qu'est-ce que ça cause, troisièmement, verset 24 à 27? L'immoralité, idolâtrie, immoralité qui s'enchaîne de rejeter le Créateur. L'ignorance amène un comportement déviant. Donc, il y a l'immoralité. Et finalement, versets 28 à 32, il y a l'obstination. Une fois embarqué dedans, s'il n'y a pas repentance, on s'enlise, le plus en plus creux. Et c'est ce qu'on voit décrit dans les versets 28 à 32. Un triste portrait, vous savez. Et Paul ici va répéter trois fois, à cause de son choix, Dieu est livré. Ils ont décidé de faire ça. Dieu livré. Dieu a décidé de respecter notre choix. Dieu nous donne la liberté de choix et Dieu décide même d'avoir un mauvais choix de respecter notre mauvais choix. Maintenant, l'idée d'être livré à nous-mêmes peut-être un peu particulier. On livre, par exemple, un coupable. Hein? Un coupable est livré à la justice, n'est-ce pas? Et même Jésus a été livré, mais il n'était pas coupable, mais il a été trahi et livré à quelqu'un. Et ici, on pourrait penser, oui, mais s'il nous livre, il y a quelque chose aussi d'attaquant contre nous. Qu'est-ce que ça veut dire, l'idée d'être livré dans ce cas ici, avec cette phrase? Il ne veut pas dire que Dieu les a poussés au mal, mais l'expression qu'il emploie ne signifie pas simplement que Dieu les a laissés se livrer au mal. Il les a livrés en tant qu'ils établissent, excusez-moi, en tant qu'il a établi dans le monde moral une loi semblable à la loi de la pesanteur dans le monde physique. Ils ont livré une loi naturelle, en vertu de laquelle celui qui s'engage dans cette pente de vice la descend rapidement avec une augmentation de vitesse et entraîne une forte chute, encore plus percutante à mesure que le temps avance. Ils ont livré est une action de la responsabilité humaine que Dieu respecte le choix. Puis Dieu les a livrés aussi à un penchant qui, une fois que tu commences en pente, c'est dur d'arrêter. C'est comme une pente de ski. Hein? Une pente de ski, si tu ne connais pas trop comment skier, tu as encore le choix d'arrêter au tout début de la pente, quand tu viens de débarquer du mont pente. Hein? Puis là, il y a encore une petite pente respectable. Puis tu vas encore freiner, même si tu n'es pas très agile. Mais à mesure que tu vas avancer, que la vitesse va augmenter, si tu ne sais pas comment freiner, ça devient de plus en plus dur. Et là, quand tu es au maximum de la vitesse, freiner, c'est facile de déraper, mais à mesure que la vitesse va, c'est difficile de revenir de bord puis de remonter la pente. Amen? Mais une fois que tu t'enlises, c'est dur d'arrêter. Il dit, je les ai livrés. Vous voulez faire ça, descendez la pente, je vous livre à vous-même dans ces vis qui vont s'enchaîner et se coller les uns derrière l'autre et empirer la situation. Le résultat, bien, il est simple, les convoitises, donc, ces désirs incontrôlés intérieurs qui sortent par des actions. Et on dit ici qu'il y a un effet de chaîne, d'entraînement. Au verset 18, si vous regardez, on mentionne comment le monde était dans l'impiété, sans révérence et sans justice. Il y a une absence de justice, une absence de révérence envers Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait rendu au verset 24 avec la convoitise? Bien, là, on voit de l'impureté. Donc, sans pureté et sans honneur même pour leur propre corps. Pas de respect envers mon propre corps, une fois enlisé là-dedans dans l'injustice, dans la non-révérence de Dieu. C'est pas juste une question que j'ai le goût de faire ça. C'est pas juste une question que j'aime faire ça. C'est pas juste une question que je fais ça naturellement sans effort. C'est une question que je fais tout ça parce que j'ai rejeté le Créateur. Je fais tout ça parce que je décide de ne pas offrir une révérence à Dieu et n'offrant pas de révérence à Dieu. Dieu, je ne laisse pas à Dieu l'influence de la moralité de Dieu qui m'a fabriqué. Et donc, ça apporte un comportement qui est le contraire de ce que Dieu veut. Et le contraire de ce que Dieu veut, c'est le contraire de ce qui est bon pour nous. Et donc, qu'est-ce que ça cause? Une vie malheureuse. Une vie surtout d'insatisfaction, de spirale d'insatisfaction à essayer des choses, à essayer des expériences et finalement toujours sortir déçu avec une quête. Et je vois des visages qui disent « Oui, j'ai déjà passé par là. » Essayer. Et trouver un sens, une satisfaction. Mais je recommence. Jamais satisfait à expérimenter ce que mes désirs me portent. Mais dans le fond, mes désirs me portent parce que je n'offre pas à Dieu la révérence qui lui appartient. Et donc, l'influence que j'ai besoin dans ma vie pour me tourner et vivre de la façon dont j'ai été fabriqué par le fabricant. C'est comme un bateau qui, finalement, décide de couper l'amarrage du bateau et qui, finalement, se fait emporter par le vent et qui se dirige vers les rochers. C'est une question de temps. Ah, je suis libre, j'ai coupé les amarrages. Oui, mais tu es libre tranquillement d'être emporté par la mer jusqu'à où a fini, sur le bord de l'eau, ces roches. Et tu vas échouer. Et vous savez, cet homme que j'ai parlé tantôt est mort à 80 ans, comme il voulait. Dieu l'a laissé tranquille. Mais aussi, il est laissé tranquille pour l'éternité, séparé de Dieu. Il a dû respecter son choix. La première idole dans nos vies, ce n'est pas une statue, c'est notre propre volonté érigée comme un absolu. C'est ça que je veux, puis c'est ça que je veux. Peu importe le coût. Et voilà l'idolâtrie ultime. Il dit donc, premièrement, Dieu les a livrés à leur convoitise, à leur désir. Deuxièmement, il dit, Dieu les a livrés à leur passion contre nature. Et là, il va utiliser un exemple de cette passion contre nature dans notre sexualité. Et là, je suis certain à la foule, plusieurs se disent, non, mais là, Joël s'enlise. Il s'en va sur un sujet glissant. Hein? Et vous vous dites tout, je suis content que c'est lui qui est en avant, pas moi. Comment qu'il va s'en sortir? Hein? Je peux imaginer. Et j'ai avec moi un ami, Sam Albury, que j'ai amené. Peut-être quelques-uns ont une copie, ou peut-être vous avez aussi une ou deux de mes copies qui ne sont pas encore revenues en passant. C'est toujours le temps de la repentance. Hein? Alors, s'il y a une copie que vous voyez, je dis, peut-être sur la page première, il est écrit Joël Lapierre ou un des membres du conseil. N'hésitez pas à le retourner. Parce que là, cette copie-là, ce n'est pas la mienne. Elle est marquée plus. Mais Sam Albury, je vais le citer parce que Sam est un pasteur anglicain respecté, un homme de Dieu, un homme qui, justement, je trouve, en tout cas dans sa communication, est doux et humble de cœur et lutte avec les désirs d'être attiré par le même sexe. Et en parle avec beaucoup de grâce, beaucoup d'amour et ramène continuellement avec Jésus. à dire la vérité, mais avec amour, et revenant pour nous dire aussi comment que c'est un péché parmi tant d'autres, et notre problème, c'est pas un péché parmi tant d'autres, c'est notre nature pécheresse, et qu'on doit retourner à Jésus, peu importe le péché. Donc, je citerai à plusieurs occasions mon ami, justement, Sam Albury, qui, justement, est édifiant à entendre et qui en parle si bien. Il dit ceci. Il souligne que dans le texte qu'on vient de lire, il y a deux vérités qui sont claires et qu'on ne peut pas passer à côté. Premièrement, que l'homosexualité, ce style de vie, est contre nature, premièrement. Le texte est clair. Il dit deuxièmement, il est signe du jugement de Dieu. Des paroles qui peuvent offenser à notre époque et pourtant c'est dans la Bible clair et c'est net. La Bible n'est pas homophobe, bien au contraire, elle est contre toute forme de péché tout court. Comme le montrent les versets suivants, versets 28 à 32. Lisez la liste comme moi, vous deviendrez rapidement inconfortable. Peu importe qui vous êtes dans la salle. On est atteint par un ou plusieurs des caractéristiques qui sont là, qu'on doit lutter avec. Le mot naturel ou contre-nature ici décrivent pas une expérience subjective de ressentir, bien au contraire, mais désigne la façon dont les choses sont établies objectivement dans la création. Paul déclare ici le comportement homme-femme. Et quand il s'adresse, par exemple, à femme et homme, dans les deux cas, les mots utilisés parlent de la biologie. Le mot pour femme ici est pas le mot femme en commun, c'est le mot mâle et femelle. Il est en train de parler de nos caractéristiques biologiques, pas subjectives à nous, qu'on trouve dans le sang, dans notre corps, ces caractéristiques qui nous donnent homme-femme, mâle et femelle. Et les mots utilisés pour femme, en passant ici, femelle parle de mamelle, l'idée de pouvoir allaiter. Les verbes sont dérivés pour allaiter. Donc, un comportement biologique qui permet ce que le caractère féminin fait, de pouvoir produire la vie, de pouvoir nourrir l'enfant qui vient de naître. C'est les caractéristiques donc biologiques qui définissent ici. Pas arbitrairement les coutumes humaines. C'est juste de la biologie ici auquel Paul se réfère. Il n'y a pas d'enjeu autre. Et tout cela dans un contexte, vous savez, où ce que, comme aujourd'hui, dans la culture gréco-romaine, tout cela était très populaire et commun. Donc, ce n'est pas surprenant que Paul, en s'adressant à Rome, les Romains, adresse un sujet qui, comme nous aujourd'hui, était répandu et faisait partie de la culture populaire. À Rome, il y a 2000 ans, comme aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les amis. On n'a rien inventé ici, en Amérique du Nord, là. C'est le comportement humain. Ça existe depuis toujours. Et Paul croit bon ici d'utiliser cela. Et M. Albury dit ceci, « Ceux qui éprouvent un AMS, donc une attirance vers le même sexe, n'ont donc aucune raison de dire, mais Dieu m'a fait ainsi. » Ce que Paul veut dire en Romains chapitre 1, c'est que notre nature, comme nous en faisons l'expérience, n'est pas naturelle comme Dieu l'a voulu. Nous avons tous des désirs qui sont pervertis par notre nature déchue. Tous et chacun, sans exception. Les désirs pour des choses interdites par Dieu reflètent ce que le péché a corrompu en moi et non ce que Dieu fait en moi, mais ce que le péché fait en moi. Et ça m'ajoute ici, la fermeté de Paul dans ce contexte ne doit pas nous faire croire que le comportement homosexuel est le seul et le pire de toutes les formes du comportement pécheur. Pas du tout. Peut-être que Paul a souligné ici parce qu'il s'agit d'un exemple particulièrement frappant et pertinent pour ses lecteurs à Rome, compte tenu du contexte culturel. Quoi qu'il en soit, cela nous concerne tous et chacun, sans exception. Quand nous rejetons Dieu, nos désirs, des choses pour lesquelles nous ne sommes pas naturellement conçus, se forgent et se nourrissent. Cela s'applique aussi bien à une personnalité hétérosexuelle qu'à une personne homosexuelle. Peu importe le désir. Parce que même dans l'hétérosexualité, les désirs de sortir du mariage, de tricher, sont aussi pires que de changer la sexualité en objet égoïste, de satisfaction égoïste, est aussi pire. On en a dans toutes les formes. Il utilise ici une expression. Vous savez, c'est comme une machine, pour illustrer tout ça, là. C'est comme une machine qu'on fait fonctionner dans une certaine manière, mais qui n'a pas été conçue pour le faire. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, ça brise. Puis l'expérience avec cette machine-là, qu'on n'utilise pas pour la bonne chose, nous rend insatisfaits. Bien, c'est même pas bon. Oui, mais tu ne l'utilises pas pour coudre. Tu es en train de frapper ton chien avec ta machine à coudre. Ce n'est pas été fait pour ça. Hein? Right? Tu n'es pas satisfait de ta machine à coudre. Tu ne l'utilises pas pour la bonne affaire. Alors, vous allez dire, c'est niaiseux. Oui, mais c'est ça. Elle finit par se briser, s'abîmer, ne plus bien fonctionner ou ne pas offrir une expérience satisfaisante. Vous savez, le manuel du fabricant n'est pas été écrit pour rien. Nous avons dans la Bible le manuel du fabricant de l'homme et de la femme. Il nous dit pourquoi il était conçu, par qui et quand, et comment vivre une expérience satisfaisante de ce corps, de cette vie que Dieu nous donne. Et si on ne respecte pas le manuel du fabricant, si on ne respecte pas l'usage selon l'objectivité biologique, physionomique, évidente que Dieu nous a donnée, et qu'on ne suit pas les normes du fabricant, ce n'est pas surprenant qu'on ne soit pas satisfait, qu'il ne produit pas le résultat escompté et qu'on se fait du mal et qu'on brise le corps que Dieu nous a donné. Le dérèglement spirituel, vous savez, entraîne le dérèglement relationnel. D'où l'insatisfaction, le mal de vivre et la culpabilité dans la conscience qui en résulte. Ce n'est pas juste l'isolement d'un péché. Paul ici appelle cela la rétribution, c'est-à-dire le salaire contraire dans les versets 26 et 27. Il parle de leur égarement, et l'égarement est utilisé entre autres, c'est l'histoire de Balaam, hein? Un égarement qui était idolâtre et qui était aussi sexuel, donc de s'éloigner. Dans leur cas, ce n'était pas de la sexualité d'un même sexe, mais sexualité avec l'autre sexe, avec une relation qui était idolâtre, une relation avec un mariage mixte ou des relations mixtes avec des gens qui ne partagent pas la même foi pour Israël dans l'histoire de Balaam. On voit qu'ici, ce n'est pas juste une forme de sexualité, c'est toute forme de mauvais usage, point à la ligne de la sexualité. Peu importe qui on est et nos désirs. Et c'est lié à l'idolâtrie, encore là ici, cette idée d'égarement de tout autre péché qui nous laisse finalement insatisfaits. Vous savez, notre monde célèbre la liberté sans limite. J'ai hâte d'être libre quand en bas de 18 ans. Puis une fois, j'ai hâte à ma retraite d'être libre. J'ai hâte à mes vacances d'être libre. J'ai hâte de... Il y a toujours quelque chose auquel on aspire pour être libre, avec une illusion que c'est ça qui va me donner la satisfaction. Je vais expérimenter quelque chose qui va me donner la liberté que je crave pour. Et finalement, les gens arrivent là souvent et disent « Ah, c'est pas ce que je pensais. Ah, ouais, je suis pas si libre que ça finalement. Je suis encore pogné avec moi. Hein? Je suis encore pogné avec moi. » Puis mon problème, c'est pas les circonstances autour, c'est mon moi. C'est d'être satisfait, moi, dans mon expérience humaine, avec mon Créateur, peu importe l'état, l'étape de vie que je suis dedans, que je me sens libre ou pas. Ma relation avec Dieu est l'élément déterminant qui amène la stabilité à toutes les étapes de vie. De me savoir aimé par le Créateur, de m'avoir savoir chéri, qu'il a un plan qui est bon, de me savoir accessible, à avoir son aide à tout moment, de le savoir qu'il... Une fois que mes péchés ont été réglés, je ne suis plus condamné et que je peux toujours retourner à lui, aussi sale que je puisse me sentir. Et que ça, c'est profondément rassurant, satisfaisant. Pas pour banaliser mon péché, pour me savoir que c'est, je ne suis pas juste ça. Je suis aussi une créature aimée par mon Créateur. Je suis aussi pardonné. Je suis aussi toujours disponible à avoir une oreille qui m'entend pour me ramener à la raison et retrouver le chemin que j'ai perdu. Romains 1 nous rappelle, la vraie liberté se trouve dans l'ordre voulu par Dieu, pas en dehors. En faisant bon usage de la création, créature, afin d'en ressortir le maximum de satisfaction selon les normes du fabricant. Dites-le avec moi, selon les normes du fabricant. C'est juste du gros bon sens, là. C'est ça qu'on fait avec toutes les bébelles que vous achetez. Il faut respecter les normes du fabricant. Si tu arrives, puis tu dis, je veux rembourser ça, j'ai une facture. Oh, mais comment tu l'as utilisé? Ah, tu ne l'as pas utilisé comme il faut, c'est pour ça que tu l'as brisé. Ça va être remboursé. Oui, mais je ne suis pas satisfait. Oui, mais tu n'es pas satisfait du produit, parce que tu ne l'as pas utilisé comme il faut pour la bonne chose. Lis le manuel du fabricant, il va te dire les normes pour que tu puisses en profiter. Ils sont là. Ils sont là. Puis, il y a tous les problèmes de troubleshooting dedans aussi. Hein, les troubleshooting en arrière, quand ça ne va pas bien, vérifiez ça. Si ça, ça ne fonctionne pas, vérifie ça. Tu les as tous dedans aussi, les troubleshooting. Mais, vous savez, tout comme j'ai de la misère, à garder premièrement le manuel du fabricant pour n'importe quelle affaire, parce qu'on en a tellement des petits manuels. Hein? Puis qu'on a la misère aussi à s'y référer aussi quand il y a un problème. On essaie de régler ça tout seul. Ou demander à quelqu'un d'autre qui s'y connaît. On fait la même chose avec Dieu, puis la parole de Dieu. On vérifie ce que d'autres ont à nous dire sur Dieu, puis comment régler mon problème. On vérifie les informations partout ailleurs. On ne veut pas faire l'effort d'aller vérifier directement auprès du manuel du fabricant, nous-mêmes, et faire nos devoirs. On espère que d'autres l'ont fait, mais on va juste demander à l'autre, c'est plus facile. Mais je n'ai pas rien appris. J'ai juste eu une information, mais je n'ai pas noué avec le fabricant. Et voilà pourquoi je ne suis pas satisfait. Dieu les a livrés à une intelligence corrompue. Donc, l'intelligence a été brisée par le contre-nature. Le contre-nature amène aussi après ça, dans toutes les sphères qu'on peut pratiquer la contre-nature, tous les domaines, amène la corruption qui s'emboîte et qui détruit. Et là, ici, on en a une longue liste, 22 péchés spécifiques qui sont ici mentionnés. Et quand vous lisez la liste, qu'on remarque, c'est différentes affaires. Très peu de verbes, c'est beaucoup des adjectifs. Même certains sont utilisés ici uniques dans le Nouveau Testament. Et c'est beaucoup des adjectifs, entre autres, sans quelque chose. Sans affection ou sans compassion. Il y a une absence de... Vous savez, parce que quand que tu laisses Dieu de côté, ce que Dieu veut pour toi, il t'exprime, c'est, par exemple, la compassion. Mais quand tu laisses Dieu de côté, tu perds ta compassion et tu deviens sans compassion. On me suit? Beaucoup des caractéristiques ici, de la manière qui sont écrites aussi, comme dans notre langue aussi, c'est sans quelque chose. Parce que si je me suis corrompu, je deviens sans ce que Dieu me crée pour vivre et qui vient de sa part. Fait que je suis sans cette chose-là. Il y a une absence, par l'absence de Dieu de ma vie, bien, il y a une absence de quelque chose de bon qui permet d'utiliser ce que j'ai été capable de créer pour être capable de faire, mais perverti, fait que sans lui, fait qu'il y a une absence de « ah ». Devant les mots grecs, il y a toujours le mot, souvent le mot, une petite lettre « ah », ça veut dire « absence de ». Sans cette chose-là. Et on remarque ça dans beaucoup de listes. Et là, il y en a qui vont dire, ah, mais ça, c'est la liste de Paul. Tu sais, Paul, il était tough. Hein? Fait que là, c'est tough, Paul. C'est juste Paul. Ça serait peut-être plus facile. Mais non, Jésus a fait la même chose. Quand on regarde la liste-là, on est obligé de retourner aussi dans Marc chapitre 7, versets 21, 22, 23, où ce que... essentiellement les mêmes choses. Paul a entendu des disciples qui ont entendu des enseignements de Jésus parce que Jésus en a parlé de ces choses-là. Devant la religion et devant les problèmes de culture religieuse et des problèmes de cœur, Jésus en a parlé dans Marc chapitre 7, versets 21, 22, 23. Il vous a un problème, il vient du cœur, il vient de l'intérieur. Puis ça produit ça. Et les listes ressemblent essentiellement à beaucoup des mêmes mots qui sont là. Encore là, parce que Dieu n'est pas dans ma vie, il y a l'absence de Dieu, donc il y a des absences de choses. Donc, je suis sans l'affection que je devrais avoir. Je suis sans la compassion que je devrais avoir. Je suis sans le respect des autres. Fait que là, je parle dans le dos des autres. Je suis sans quelque chose de Dieu parce que Dieu n'a pas la place, la révérence qu'il y a dans ma vie. Fait que l'absence de Dieu amène une lacune dans ma vie, dans plein de sphères. Il y en a toujours une ou deux ou trois qui nous pèsent plus que pour quelqu'un d'autre, selon le vécu, selon nos tendances, nos luttes. Et c'est ce qu'on remarque dans cette lutte, dans cette liste-là qui nous est pourvue. Je ne m'arrêterai pas à tous les termes parce que vous êtes capable de le faire vous-même et ça pourrait être long et pénible de faire cela. Je regarde une vue d'ensemble. Je reviens ici aux paroles de Sam Albury. Il dit ceci. Là, je suis retourné à la même page, excusez-moi. L'autre citation. Il continue en disant ceci. Lorsque nous essayons de visualiser la colère de Dieu, au verset 18, nous imaginons une scène de film catastrophique avec des éclairs qui déchirent le ciel. Ah, c'est la colère de Dieu. Pourtant, l'image que Paul nous livre ici est très différente. Comment la colère de Dieu se manifeste-t-elle dans le présent? Il nous donne ce que nous désirons. Tu veux l'avoir? Correct, on va te le donner. Des fois, on peut faire ça comme parents, hein? Un enfant nous demande quelque chose, on sait que ce n'est pas bon pour lui, puis il a une certaine âge, et puis à un moment donné, tu décides, OK, on va le livrer à ce qu'il veut. C'est une forme de punition. Il dit, la colère de Dieu se manifeste comme ça. Comment Dieu réagit-il lorsque les hommes remplacent sa vérité en sa gloire? Nous lisons à trois reprises que Dieu les a livrés aux conséquences de leur mauvais désir. Il dit, je vous laisse aller, allez-y. C'est ainsi qu'il juge le péché aujourd'hui. Nous voulons vivre sans lui, alors il nous donne un avant-goût de ce que c'est de vivre sans lui présentement, en nous livrant à nous-mêmes. Dans chaque cas, en parlant de la liste ici de péchés, ce jugement particulier se traduit dans une intensification du péché, ainsi que par la dégradation du comportement humain qui s'enlise. Dieu livre l'être humain à son propre corps, verset 24, à ses passions déshonorantes, au verset 26, remplace les relations sexuelles naturelles par des relations contre nature et mène à une intelligence déréglée et l'émergence de toutes sortes de méchancetés que Paul évoque dans la liste des versets 28 à 32, des comportements qui sont antisociaux, qui sont contre les gens aujourd'hui, sont contre dans nos relations. Parce que les comportements qu'on lit dans verset 28 à 32 affectent toutes nos relations, les choses qui sont listées là. Le péché conduit au jugement, mais le jugement conduit aussi à d'autres péchés. Toutes ces actions abominables, il dit, nous rappellent une chose. Nous vivons dans un monde qui expérimente un avant-goût de la colère de Dieu et qui la fera pleinement éclater au jour de son jugement lorsqu'il reviendra. Le fait que l'activité homosexuelle soit une de ces actions témoigne de la nature corrompue de l'humanité pécheresse, tout simplement. Paul adopte un point de vue de communautaire plutôt qu'individuel dans les commentaires qu'il fait ici. Il décrit ce qui arrive à l'ensemble d'une culture plutôt que juste à un individu en tant que tel. La présence du désir homosexuel chez certains d'entre nous n'indique pas qu'un individu s'est détourné de Dieu plus qu'un autre. Et que Dieu l'a livré encore plus qu'un autre. C'est pas ça que ça veut dire, pantoute. Il existe un parallèle, par exemple, avec la souffrance. La présence d'une souffrance particulière dans la vie de quelqu'un ne signifie pas que cet individu a péché plus que certains d'autres qui souffrent moins. Il n'y a pas ici un calcul comme ça à faire. Non, du tout. La présence universelle de la souffrance indique plutôt que le genre humain est sous le jugement de Dieu. Point à la ligne. De même, la présence de sentiments d'attirance vers le même sexe en moi me rappelle que mes désirs sont corrompus. Et ça, c'est lui qui parle. Tout simplement parce que le monde est corrompu. On l'est tous. Nous sommes tous détournés de Dieu et nous avons tous été livrés au péché. Maintenant, c'est est-ce que j'ai répondu à l'invitation de Dieu? Est-ce que j'ai répondu à son invitation pour le pardon? Et est-ce que j'ai répondu à son invitation pour devenir son enfant et régler ma situation? Et j'espère que c'est votre situation ce matin. Vous avez répondu à la main tendue de Dieu pour régler toute forme de corruption en dedans de nous. Et que là, maintenant, on a les armes, les moyens pour vivre et ne plus être toujours en train de retourner là. On peut vivre dans la victoire maintenant. Et quand il n'y a pas victoire, on peut se repentir et retourner à celui qui nous rend victorieux et qui a la victoire qui est toujours disponible. Et remarquez ici, la phrase est vraiment importante. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu s'est fait connaître. Mais ils ont décidé, je ne veux pas te connaître. Ça ne m'intéresse pas. Je veux rester sans ta connaissance, puis faire à ma tête. C'est un choix délibéré. Alors, à ce moment-là, l'esprit devient incapable de discerner le bien et le mal. Il y a même dans le grec ici un jeu de mots qui ressort. Comment le châtiment de péché est conséquence du péché. Il dit, comme ils n'ont pas approuvé de connaître Dieu, littéralement, Dieu les a réprouvés. Pas approuvé, mais t'es réprouvé ou désapprouvé. Et le jeu de mots ici, c'est littéralement lié au mot qu'on utilisait à l'époque pour quand on voulait, on en parlait justement au Conseil d'Anciens, on regardait un texte qui utilisait le même mot pour parler de certifier une pièce de monnaie. À l'époque, on avait des pièces de monnaie, puis une des choses qui se faisait, c'est qu'on rognait des bouts, on brisait des parties. Puis là, ça devenait finalement qu'il fallait vérifier, voir si cette pièce-là était authentique, la certifier que c'est une bonne pièce. Il fallait un vérificateur, quelqu'un qui était capable de certifier. Bien, il dit, vous n'avez pas voulu certifier la connaissance de Dieu dans vos vies? Bien, moi, je vais enlever la certification aussi dans ta vie. C'est un peu le genre de mot qu'il utilise pour l'expression locale de l'époque qu'on utilisait, de certification, d'authenticité. Pourquoi? C'est le Créateur. Tu as décidé, on a décidé de se débarrasser du Créateur, mais après ça, on veut la bénédiction du Créateur, puis on ne veut pas de problème avec le Créateur, puis on ne veut pas que c'est trop dur, le Créateur, pour qu'on puisse vivre notre vie comme on veut. C'est comme ça qu'on est naturellement. Puis Paul nous dresse un portrait ici pour qu'on en voie la gravité et qu'on voit proportionnellement mon besoin de Jésus, mon besoin de l'Évangile qui est le thème central de cette épître. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je ne veux pas m'étirer là-dessus. Tromper délibérément, c'est un choix. Il y a un homme qui a été connu pendant des années et on a ri de lui pour la raison suivante. On appelait Carignan fausse route. Parce que M. Carignan, en 38, est parti de New York et s'envolait pour la Californie. Et finalement, il a traversé l'océan à place et puis s'est ramassé l'autre côté de l'océan à Dublin. Puis quand il est arrivé, il a dit « Est-ce que je suis arrivé en Californie? » Évidemment, les gens se sont foutus de lui, mais royalement, comme un idiot. Et pendant 25 ans, les gens ont dit des niaiseries sur lui en disant « Hey, t'es trompé de chemin, là, ça c'est le genre, là, 1938. » Et finalement, en 63, il a admis que son voyage au-delà de l'Atlantique avait été planifié. Incapable d'obtenir la permission de traverser l'océan, il avait quand même mis les plans à l'exécution et avait évidemment fait à croire que c'était un accident. Déjà vu ça? Quand j'ai pas la permission de faire quelque chose, je clame l'innocence, l'erreur, s'excuser après plutôt que demander la permission. Hein, c'est délibérément. C'est un choix volontaire. C'est ça que je suis en train de dire et que Paul est en train de nous dire. Et on est responsable de tout ça. Une boussole qui perd le nord, vous savez, elle tourne en rond. Elle n'indique plus aucune direction fiable qu'on peut se fier. L'homme finit par marcher finalement dans l'obscurité et pense suivre le bon chemin. Mais il a perdu le nord. Alors qu'est-ce qui arrive? Comme la boussole, on erre. Et c'est pour ça qu'ils utilisent le terme égarement. Hein? C'est l'idée que je suis en train de tourner en rond perdu, dans un non-sens, dans une circulaire qui est infinie et qui ne termine jamais. Égaré. C'est ça l'idée. Lancé dans un mouvement spirale sans fin. Comme une couronne, une boussole, excusez-moi, qui a perdu le nord. Le pire jugement de Dieu n'est pas la foudre, vous savez, les éclairs et les images de catastrophe. C'est quand il nous laisse aller à notre propre tête. Tu veux le faire? Je vais te laisser faire. Puis tu goûteras ce que tu veux. Mais je serai toujours disponible, tant que tu es vivant, pour revenir à moi puis te repentir. Le chapitre montre clairement que l'homme est coupable et il n'a pas d'excuse au verset 1 du chapitre suivant. Quand vous lisez, là, regardez, on termine au verset 32. Et qu'est-ce qui arrive au verset 32? Tout de suite, il termine et dit, « Tu es donc inexcusable, toi, qui que tu sois. » La nouvelle est là, est claire. Personne n'a d'excuse. On est tous là-dedans. Et le message et la profondeur de notre problème est annoncé. Qu'allons-nous faire? J'aimerais conclure avec vous avec quelques pistes de réflexion. Premièrement, le refus de l'Évangile entraîne un esclavage intérieur. Vous savez, quand tu décides de faire quelque chose, de te débarrasser d'être sous la gouvernance de Dieu, tu te ramasses sur un autre esclavage. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez l'entendre la semaine prochaine dans les témoignages. Je voulais ça, je voulais ça, je voulais ça. Finalement, je me suis embarqué là-dedans, puis j'étais malheureux. Je suis devenu esclave de ça, de ça, de ça. C'est quasiment un refrain dans une majorité de témoignages de conversion qu'on entend dans les baptêmes. J'ai abandonné, mais pour me ramasser dans une autre forme d'esclavage. Et j'étais malheureux. Des fois, ça prend un certain temps avant d'avoir la franchise de le dire, de l'évaluer objectivement. Je ne suis pas heureux. Puis ça prend beaucoup de vouloir, de repentance, au bout du compte, d'être amer de ma vie pour finalement me tourner vers la main tendue de Jésus. Mais vous savez, le refus de l'Évangile va entraîner un esclavage intérieur. Il n'y a pas moyen de s'en sauver. C'est un automatisme. Deuxièmement, rejeter le Créateur désorganise la création. Ça, c'est un mot à la mode de ce temps-ci, hein? Ah, c'est désorganisé. Vous avez déjà entendu ça? Quelqu'un qui a entendu ça à l'école, services sociaux, hein, un enfant qui se désorganise. Hein? Et qu'est-ce qu'on veut dire par quelqu'un qui se désorganise? C'est-à-dire qu'il peut se manifester par un manque de coordination, d'instabilité ou de comportement chaotique ou différentes difficultés d'accomplir des tâches quotidiennes. Mais quand tu es désorganisé, tu es dysfonctionnel finalement. On suit? Tu étais dans un ordre, puis là, il y a un désordre, et là, tu es désorganisé. Et c'est vraiment ça ici. Le rejet du Créateur désorganise. On a une planète inter-pays, on a des villes inter-villes à l'intérieur des provinces, des pays, on a des gens dans leurs maisons, dans des quartiers, Mais les uns envers les autres, on est désorganisés par le péché. Et ça amène quoi? Instabilité, comportement chaotique, difficulté à faire notre quotidien dans tout ce qu'on doit accomplir, manque de coordination. Je trouve le thème est tellement intéressant pour décrire, on est dans une situation de planétaire de désorganisation. Et c'est ce que les nouvelles nous disent à toutes les soirs lorsqu'on nous raconte qu'est-ce qui se passe dans le monde. Un monde qui a rejeté Dieu devient un monde désorganisé. Et c'est ce qu'on vit. Observons-le. Ça, c'est le rejet de Dieu. Et Dieu nous laisse nous livrer à nous-mêmes. C'est ça qu'on constate. Ignorer Dieu obscurcit l'esprit et détruit la société de manière généralisée. Je parle ici de collectivement. Il y a une destruction qui se passe et on tente non seulement, on ne le vit pas juste individuellement, on dirait qu'il faut qu'on aussi, on le passe à l'autre, qu'on a raison de faire la décision qu'on a faite, notre style de vie, notre choix. Et on doit trouver des mécanismes aussi pour le justifier et vivre bien avec notre choix. Fait qu'on devient contagieux, on doit passer notre philosophie à d'autres. Vous suivez? Tu ne peux pas la garder juste pour toi, ta philosophie. Je suis bien là-dedans, j'ai trouvé mon raisonnement, puis je veux le donner à d'autres pour qu'ils viennent au même raisonnement que moi. On est contagieux dans nos raisonnements. Et quand je veux justifier le péché, quand je veux lui donner des ailes et des explications, puis avoir bonne conscience, bien, je le donne aussi pour pouvoir le donner à d'autres. Mais c'est parce que j'ai l'esprit obscurci. La lumière est allumée de l'Évangile. La lumière est allumée d'un Dieu créateur qui m'invite. La lumière est allumée d'un Dieu créateur qui se révèle dans toute la création, dans la manière dont je suis fait, dans les étoiles, dans la fabrication de la création, même brisée, on voit les marques de Dieu et je décide de fermer la lumière et de marcher dans le noir quand même. J'ai vu la lumière, mais non merci, j'en veux pas. Je préfère marcher dans les ténèbres et la noirceur. Mais qu'est-ce que ça fait? Une société au complet qui décide de fermer la lumière. Le chaos. C'est un constat. Le péché n'est pas à banaliser, même pour le chrétien après la conversion. Ce qui est facile pour le chrétien, c'est de lire ça ici, de dire, OK, mais ça ne me concerne pas, ben, est-ce que bon, moi j'ai réglé ça. C'est surtout si tu te dis chrétien, tu dis, mais moi j'ai réglé ça avec le Seigneur Jésus, tu sais, je ne suis plus là-dedans, là. Et ça, c'est dangereux, de banaliser. Permettez-moi juste une simple régression ici, puis un exemple de tout ça. Dans les versets 29 à 30, regardez. Lisez-le personnellement. Donnez un exemple, le péché de la parole. Je vais relire ici les paroles que je prends de Éphésiens chapitre 4, verset 29, qui dit, c'est Paul qui dit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. » Donc, une parole qui fait que quand tu l'entends, elle te construit, elle te rend plus fort, elle te rend affermi, elle t'élève vers Dieu. On n'en trouve pas partout, ce genre de paroles-là. Et Paul, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de les critiques de rapporteurs et de médisance, entre autres. J'en nomme juste deux, pas trop en mettre. Il inscrit au rang des hautains, des meurtriers, des ingénieux au mal et des impies, ces termes-là, liés au péché de la parole. Bavarder trop, raconter des rumeurs en cachette de quelqu'un d'autre, de souligner les mauvais coups de quelqu'un d'autre, puis ça, tu penses-tu? Puis rapporter, puis juste permettre que ça se transporte. Vous savez, personne n'oserait littéralement renverser quelqu'un sous une voiture, mais pourtant, on n'hésite pas à renverser quelqu'un avec une parole. Littéralement. Et ça se fait subtilement sur le dos de toutes sortes de bonnes intentions. Et ça se fait si facilement dans la famille, si facilement dans nos foyers, si facilement dans la vie d'Église. Le péché avec ma parole. Paul dit, il nous invite en Romains chapitre 12, verset 9, il dit d'avoir un amour sans hypocrisie. Donc, un vrai amour qui n'a pas d'hypocrisie dedans. Un amour donc, authentique, que je ne fais pas quelque chose pour l'apparence de quelque chose, ou pour avoir quelque chose. Il nous invite à ça, parce que c'est facile d'avoir un amour qui est hypocrite. John Stott appelle les saints à avoir un saint commérage. Que c'est quoi un saint commérage? Autrement dit, qu'il faut parler avec enthousiasme de l'œuvre de la transformation de Jésus dans la vie de quelqu'un. Hey, t'as-tu entendu comment telle personne vivait comme ça avant, puis là, elle fait ça, c'est beau à voir! Hey, c'est fun, ça. Quelqu'un a fait ça avec moi cette semaine, hein? J'ai reçu un courriel de quelqu'un, il dit « Hey, Joël, là, je priais pour telle personne, sais-tu quoi, je t'en avais parlé il y a un mois, puis là, j'ai entendu qu'il a été baptisé dernièrement, qu'il a accepté le Seigneur Jésus, wouhou! » Hey, ça, tu parles d'un saint commérage. On en veut-tu de ça un peu, hein? Ça se pratique de raconter les bons coups, de raconter les choses qui rendent fiers, les choses qui élèvent la vie de Jésus dans la vie de quelqu'un, plutôt de raconter les choses qui déshonorent Jésus dans la vie de quelqu'un. Puis de se sentir meilleur que la personne. On fait ça si facilement. Et je vous invite à pas banaliser le péché. En lisant tout ça, « Ah, mais moi, je suis pas, moi, je fais pas ça. Oh, » mais il y a peut-être quelque chose d'autre dans lequel moi aussi, je suis gêné quand je lis ça. Puis quand je lis tout ça, moi aussi, je suis gêné. Il y a des choses là-dedans, « Ah, Seigneur, pourquoi je retourne à ça? » Banalisons pas le péché. Jésus a payé très cher pour le péché. Son prix n'a pas été cheap. Il n'a pas payé avec son petit change. Dieu a payé avec son Fils Jésus. C'est ça le message de l'Évangile. Pour que le péché soit réglé dans nos vies. Vivons avec la victoire qu'il nous donne. Retournons à lui quand on s'est planté. Et finalement, cette dernière invitation. L'Évangile ne s'arrête pas là. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il est en train de dire, il y a beaucoup de péchés, mais il y a il y a une survictoire, il y a beaucoup plus encore de pardon en Jésus qu'il y a une abondance de péchés dans ma vie. Tu ne peux jamais être trop pécheur pour Jésus. Et j'ai entendu ça, des gens qui m'ont parlé, disant, ah non, j'en ai trop fait. Ah non, c'est trop grave ce que j'ai fait. Mais c'est pour ça que Jésus est mort radicalement à la croix, d'une mort violente et injuste. Ça décrit l'ampleur de notre péché. Mais ça décrit proportionnellement aussi la superpuissance, la superabondance de pardon disponible en Jésus à la croix. Et Paul fait ce contraste-là pour me rassurer, peu importe le péché que tu as fait, peu importe la quantité, peu importe l'ampleur, le nombre, tu n'arriveras jamais à déborder l'ampleur du pardon que Jésus a offert à la croix. Et tu ne payeras jamais, tu augmenteras jamais un coût si élevé qu'il ne dépasse celui de ce que Dieu le Père a payé par son Fils Jésus. C'est ça la beauté du message de l'Évangile. Il n'y a pas un coût qui a été aussi grand que celui du Père Céleste avec son Fils. Et il l'a couvert. Et donc, on est tous sans excuse devant le pardon de Jésus qu'il nous a offert. Et de ne pas l'accueillir. Mais faut-il encore que je le reconnaisse? Faut-il encore que je voie comment je suis désespéré? J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher pour terminer dans un ou deux chants. Je vous invite à un instant de recueillement, de méditation, ce qu'on vient de lire ce matin. Et sur cette belle attitude humble que Sam a ramené tout ça à moi, tout ça à nous, plutôt que vers l'autre. Parce que tant que ça demeure l'autre, c'est le problème de l'autre, c'est pas inconfortable dans ma cour, sur mon siège. Tant que c'est quelqu'un à m'arranger à quelque part autour de moi qui a ce problème-là, ça va bien. Mais quand tout à coup, je t'assiste sur la chaise de celui qui est concerné par ce que Paul dit, c'est là que je suis inconfortable. Et c'est là que Dieu veut me rencontrer, veut te rencontrer ce matin. Prions le Père Céleste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Seigneur, on reconnaît qu'on a besoin de ton pardon. Pas juste pour être sauvé une fois. Mais on a besoin aussi, Seigneur, de revenir continuellement à toi parce qu'on erre si facilement. Et Paul va en parler au chapitre 7. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas faire, je me ramasse à le faire. Puis que c'est frustrant sur cette terre, la vie parfois, Seigneur. C'est ce qu'il dit. Au chapitre 8, il nous rappelle que c'est en vivant dépendant de l'Esprit-Saint, comme Jésus, qu'on peut surmonter ses désirs et vivre dans la victoire. C'est accessible pour nous. Peut-être on va y retourner, Seigneur, mais c'est toujours accessible pour nous. Merci, Seigneur, pour cette révélation que tu as donnée à Paul qui a expliqué ça de manière tellement bien, complète, qu'on s'y réfère encore 2000 ans plus tard à ce message de l'Évangile que Paul a décrit en long et en large, en citant l'Ancien Testament un peu partout pour nous décrire ce message du salut, c'est incroyable. Et comment on en a besoin, comment l'avoir, comment tu as trouvé le moyen, et qu'est-ce que ça fait sur mon quotidien. Merci, Seigneur, pour ta parole qui rencontre nos vrais défis d'aujourd'hui. Ce texte matin, il parle de notre vie ici en Amérique du Nord, puis nos problèmes encore aujourd'hui. C'était pareil il y a 2000 ans. Les gens à Rome luttaient avec les mêmes choses que nous, on lutte avec aujourd'hui. On n'est pas différents. Même chair humaine. Les mêmes défis dans nos cœurs. Les mêmes désirs qu'on doit lutter avec. Rien de nouveau. Et on a toujours le même Créateur qui tend la main. Le même Créateur aimant. Qui reste toujours disponible. Reviens. Reviens. Et peut-être tu as besoin de revenir ce matin. D'un refroidissement. Revenir d'une culpabilité. Revenir d'une honte. Puis d'arrêter de t'isoler dans ton coin. Puis dire, Seigneur, j'accepte de revenir vers toi. J'accepte d'arrêter de vivre dans la culpabilité qui me détruit. Alors que Jésus a tout fait. Et je veux juste te demander ton aide, de m'aider à accepter ton pardon et de vivre dans l'ombre de ton pardon plutôt que dans l'ombre de mes hontes, dans l'ombre de ma condamnation, dans l'ombre de tout ce qui me détruit. Je veux vivre dans l'ombre du pardon de Jésus ce matin. Et peut-être ce matin, vous n'avez jamais encore donné votre vie à Jésus. Vous êtes encore peut-être en train de vivre dans une rébellion. Laisse-moi tranquille. Mais tu es ici ce matin, peut-être t'écoutes en ligne, peut-être t'écoutes en différé. Seigneur t'invite à jeter les armes, à mettre les genoux à terre, puis de demander pardon. Et peut-être dire tout simplement, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ma rébellion dans mon cœur, de vouloir faire à ma tête. Je ne suis pas heureux dans le fait. Dans le fond, il faut que je te le dise, Seigneur, je ne suis pas heureux dans le fond. Je n'ai pas trouvé ce que je pensais trouver. Puis quand j'avais du plaisir, après ça, il y avait de la culpabilité, puis j'étais amer, puis déçu. C'est ça la vérité, Seigneur. C'est vrai que loin de toi, je ne suis pas heureux. Je te demande pardon. Je veux t'accepter, je veux croire en toi, je veux marcher à ta suite avec ton aide. Fais de moi ton enfant, ton disciple, s'il vous plaît. Seigneur, nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ.